Culture, en français dans le texte, la dictée de Rachid Santaki.
Je vais te poser une question. Les mots compliqués sortent d'où, à ton avis?
Du cerveau de grands esprits.
D'accord. Qu'est-ce que tu vois?
Des mots compliqués que je ne connais pas.
Ah, regarde bien. Comment appelle-t-on l'énergie dégagée par le soleil?
Solaire.
Donc, que signifie le mot sol?
Soleil.
Et dans le mot terraneus, il y a quoi?
Terrain.
Qui vient de terre. Soli terraneus veut dire le soleil et la terre, qui combinent leurs effets. Donc, les mots composés ou difficiles viennent d'où?
Des mots courants.
Et combien de mots courants connais-tu?
Des tonnes.
Oui, et tu devras encore en apprendre beaucoup plus. Tu devras te familiariser avec les mots grecs, les mots qui trouvent leur origine dans le latin, l'anglais, l'espagnol. Et quand tu les connaîtras par cœur, tu pourras les épeler tous, même les plus compliqués.
Voilà, je veux entendre autant d'enthousiasme dans votre voix, Rachid Santaki, aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour, Olivia.
Bonjour. Extrait du film Les mots d'Aquila, un film américain sorti il y a une dizaine d'années, où une élève des quartiers défavorisés de Los Angeles s'inscrit à une sorte de concours d'orthographe, d'éloquence, le Spelling Bee, et où le professeur tente de lui apprendre qu'un mot compliqué n'est jamais finalement autre chose que la somme de plusieurs mots simples. À la dictée, pour vous accompagner aujourd'hui, le dessinateur et auteur de bande dessinée, Jules. Il publie chez Dargo le nouvel opus de sa série Silex and the City, une livraison qui arrive à point nommé à la veille de Noël, où l'on retrouve sa famille .com dans la dérive des confinements, clin d'œil, vous l'aurez compris, à la crise sanitaire actuelle. Bonjour Jules.
Bonjour.
J'ai bien dit la dérive des confinements, hein.
C'est ça. Mmh. Voilà, déjà, ça, on sent qu'il y a un professionnalisme qui pointe.
Oui, oui, on sent que depuis quelques mois, on est un peu accaparé par un sujet, la crise sanitaire.
Oui, il faut s'en libérer, c'est ça, par le rire. C'est une vertu vaccinale, quasiment.
Par le rire et par les mots. Hein. Vous êtes, vous, un normalien, agrégé d'histoire. On imagine que la dictée est un exercice qui ne vous fait même pas peur, avec laquelle vous
ça
aurez...
Ça me fait très, très peur. J'étais dans un système, dans les petites classes, où il n'y avait pas de, très alternatif, très 68 art, où la dictée, c'était quelque chose de trop contraignant. Et donc, on avait le droit d'écrire les mots comme on voulait. Donc là, je vais essayer de me montrer digne de tout ça.
Donc, vous n'avez pas fait beaucoup de dictées dans votre vie?
J'en ai quasiment jamais fait.
Donc, vous n'aurez pas de plaisir à renouer avec cet exercice?
En revanche, non, voilà, mais c'est le plaisir de la découverte.
C'est déjà ça, c'est beaucoup. Mmh. Vous êtes fils de prof, hein. Alors pourtant, on imagine quand même qu'à la maison, savoir écrire, bien écrire, l'orthographe, la grammaire, la conjugaison, c'était quand même important.
Oui et non, parce qu'encore une fois, c'est cette petite période historique où l'expression de la créativité de l'enfant primait sur la conformité, je dirais, aux règles d'orthographe et de conjugaison. Et donc, voilà, j'ai pas du tout fréquenté le Becherel. Et donc, c'est un peu au pifomètre. Mais à force de lire, en fait, il y a une espèce d'expérience qui se met en place. Donc, on va voir si mes lectures m'aideront.
Une école sans contrainte, depuis, vous avez appris à aimer la contrainte ou pas?
Je sais pas si en ces temps de Covid et d'attestation dérogatoire de sortie, on peut dire qu'on aime la contrainte, je veux dire.
On va dire la contrainte créative.
Voilà. Non, mais c'est-à-dire qu'effectivement, je suis un fan de l'Oulipo et donc, en fin de compte, oui, quand il y a beaucoup de règles, c'est très amusant de s'en affranchir avec mesure.
Rachid Santaki, est-ce que vous avez prévu, pensé à une dictée corsée pour notre invité Jules? Quel texte avez-vous choisi?
Alors, j'ai choisi un extrait de L'île mystérieuse de Jules Verne.
Ah, pourquoi Jules Verne?
Jules Verne, j'étais dans la simplicité aujourd'hui, Olivia, je suis désolé.
Très bien joué. Jules Verne, extrait de L'île mystérieuse, c'est un texte que vous connaissez, Jules?
Je n'ai pas lu L'île mystérieuse, mais j'étais un fan inconditionnel de Jules Verne, malgré tout, j'en ai lu pas mal. Il y avait la collection Folio, dont les couvertures étaient illustrées par Bilal, ce qui m'a fait rentrer à la fois dans la BD et dans le roman, simultanément quasiment.
Alors je vais vous dire comment ça va se passer. Une première lecture par Rachid pour se mettre le texte dans l'oreille, une seconde pour noter et une troisième ensemble pour corriger, voilà pour le rappel des règles. Aujourd'hui donc L'île mystérieuse de Jules Verne. Rachid Santaki, on vous écoute pour une première lecture.
Cet appareil muni d'un puissant objectif était très complet. Substance nécessaire à la reproduction photographique, collodion pour préparer la plaque de verre, nitrate d'argent pour la sensibiliser, hyposulfate de soude pour fixer l'image obtenue, chlorure d'ammonium pour baigner le papier destiné à donner les preuves positives, acétate de soude et chlorure d'or pour imprégner cette dernière. Rien ne manquait. Les papiers même étaient là, tout chlorurés, Et avant de les poser dans le châssis sur les épreuves négatives, il suffisait de les tremper pendant quelques minutes dans le nitrate d'argent étendu d'eau. Le reporter et son aide devinrent donc, en peu de temps, d'habiles opérateurs et ils obtinrent d'assez belles épreuves de paysage. Point de suspension et fin de cette dictée. Je vais donc effectuer la seconde lecture. Très bonne dictée à nos participantes et participants, ainsi qu'à notre invité, Jules. Cet appareil, virgule. Cet appareil, virgule, muni d'un puissant objectif, virgule. Cet appareil, virgule, muni d'un puissant objectif, virgule, était très complet, point. Cet appareil, virgule, muni d'un puissant objectif, virgule, était très complet, point. Substance nécessaire à la reproduction photographique, virgule. Substance nécessaire à la reproduction photographique, virgule. Collodion pour préparer la plaque de verre, virgule. Collodion pour préparer la plaque de verre, virgule. Nitrate d'argent pour la sensibiliser, virgule. Je répète, collodion pour préparer la plaque de verre, virgule. Nitrate d'argent pour la sensibiliser, virgule. Hyposulfate de soude pour fixer l'image obtenue, virgule. Hyposulfate de soude pour fixer l'image obtenue, virgule. Fin de la dictée pour les écoliers.
Est-ce que tout va bien jusqu'ici pour vous, Jules?
Tout va bien, mais je vous rappelle que j'ai fait A1, qui était lettres et maths, et j'ai pas du tout fait chimie, hein, mais bon.
Mais vous allez vous y mettre.
Voilà.
Chlorure d'ammonium pour baigner le papier destiné à donner. Chlorure d'ammonium pour baigner le papier destiné à donner l'épreuve positive, virgule. Le papier destiné à donner l'épreuve positive, virgule. Acétate de soude et chlorure d'or, je répète, acétate de soude et chlorure d'or pour imprégner cette dernière, virgule. Acétate de soude et chlorure d'or pour imprégner cette dernière, virgule. Rien ne manquait, point. Rien ne manquait, point. Les papiers mêmes étaient là, virgule. Les papiers mêmes étaient là, virgule. Tout chloruré, virgule. Les papiers mêmes étaient là, virgule. Tout chloruré, virgule. Et avant de les poser, les papiers mêmes étaient là, virgule. Tout chloruré, virgule. Et avant de les poser dans le châssis, sur les épreuves négatives, virgule, dans le châssis sur les épreuves négatives, virgule, Il suffisait de les tremper. Il suffisait de les tremper pendant quelques minutes. Il suffisait de les tremper pendant quelques minutes dans le nitrate d'argent. Il suffisait de les tremper pendant quelques minutes dans le nitrate d'argent étendu d'eau. Point. Dans le nitrate d'argent étendu d'eau. Point. Le reporter et son aide. Le reporter et son aide devinrent donc, virgule, le reporter et son aide devinrent donc, virgule, en peu de temps, virgule, le reporter et son aide devinrent donc, virgule, en peu de temps, virgule, d'habiles opérateurs, virgule. En peu de temps, virgule, d'habiles opérateurs, virgule, et ils obtinrent d'assez belles épreuves de paysage. Je répète, d'habiles opérateurs, virgule, et ils obtinrent d'assez belles épreuves de paysage. Point de suspension et fin de cette seconde lecture.
Merci beaucoup, Rachid Santaki. Certains auditeurs nous demandent une troisième lecture pour se corriger au fil de ces mots. Alors, si vous permettez, peut-être, je vais profiter d'être ici en studio pour vous la donner, cette lecture. Cet appareil, muni d'un puissant objectif, était très complet. Point. Substance nécessaire à la reproduction photographique, virgule, collodion pour préparer la plaque de verre, virgule, nitrate d'argent pour la sensibiliser, hyposulfate de soude pour fixer l'image obtenue, virgule, chlorure d'ammonium pour baigner le papier destiné à donner l'épreuve positive, virgule, acétate de soude et chlorure d'or pour imprégner cette dernière, virgule, rien ne manquait. Point. Les papiers même étaient là, tout chlorurés, virgule, et avant de les poser dans le châssis sur les épreuves négatives, virgule, il suffisait de les tremper pendant quelques minutes dans le nitrate d'argent étendu d'eau. Point. Le reporter et son aide devinrent donc, virgule, en peu de temps, virgule, d'habiles opérateurs, virgule, et ils obtinrent d'assez belles épreuves de paysage. Trois petits points. Comment ça s'est passé, Jules, pour vous, avec ce vocabulaire assez technique ?
Oui, mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à faire confiance à la simplicité dans le vocabulaire technique. Donc, j'ai été un peu pingre sur les haches. Donc, peut-être, j'aurais peut-être dû mettre davantage de coups de hache. Mais voilà, là où je pensais mettre des haches, j'en ai jamais mis.
Bon, mais il doit y avoir aussi des M qui se doublent, des Y qui se glissent à travers ce vocable assez technique, donc utilisé ici par Jules Verne. Jules Verne, on le sait, qui était quand même un passionné d'innovation. Je ne sais pas s'il avait fait A1 ou pas, comme vous, Jules, français, philo, mathématiques en dominante. Mais on sait en tout cas qu'il était passionné de progrès scientifique, progrès qui lui était d'ailleurs contemporain, avec une passion pour la photographie, hein, ici dans ce texte qui est expliqué de manière très didactique. Et on sait aussi que Jules Verne se documentait beaucoup. C'était un gros bosseur, il prenait beaucoup de notes en feuilletant les revues scientifiques et ça nourrissait ses livres, ses romans. On retrouve ça dans ce texte dont est extrait votre choix de dictée, Rachid Santaki, L'île mystérieuse, paru en 1875, avec ce personnage de l'ingénieur Cyrus Smith. Voilà, il est le passeur de connaissances dans cet extrême. On va revenir sur les mots qui ont pu poser problème. Première phrase, cet appareil. Appareil, Jules ?
Bah, 2P, A-R-E-I-L.
Alors, ne commencez pas par faire « bah », hein, comme si tout était évident.
Bah, appareil.
Faisons semblant quand même qu'il y ait un certain niveau de difficulté. Cet appareil.
Difficulté de F. Ouais.
Muni, du coup, au masculin, I, d'un puissant objectif, on n'oublie pas le T, à puissant, qu'on a bien indiqué par la liaison, Rachid, était très complet, C-O-M, avant le P, L-E-T, point, substance. Vous l'écrivez comment, Jules ?
Moi, j'ai mis au pluriel, parce qu'il y en a plein après.
À raison, alors.
Bon.
à la reproduction photographique. Vous voulez, Rachid, nous dire comment s'orthographie et ce que signifie cette suite de mots un peu techniques, collodion, nitrate, hyposulfate. Je vous laisse la parole.
Collodion, donc C-O-2-L-O-D-I-O-N, et donc c'est un nom masculin. C'est une solution de nitrocellulose dans un mélange d'éther et d'alcool. Ensuite, nitrate, N-I-T-R-A-T-E, un nom masculin, c'est du sel, de l'acide nitrique. Enfin, hyposulfate, donc H-Y-P-O-S-U-L-F-A-T-E, nom masculin, sel d'acide hyposulfurique. Ensuite, ammonium, A-2-M-O-N-I-U-M, nom masculin, radical de base des sels ammoniaco. Voilà pour ces substances, enfin une partie puisque d'autres arrivent derrière.
Ouais, et notamment acétate de soude et chlorure d'or. Vous avez fait des fautes jusqu'ici, Jules, à collodion, hyposulfate, chlorure d'ammonium avec deux M.
Oui, ça m'énerve, la collodion, j'ai mis qu'un seul L. Parce que je pensais à colostrum. Moi, je suis meilleur en puériculture avec les problèmes de bébé que le problème de photographie.
Nitrate, vous avez mis un T, enfin, à chaque fois.
Alors, le reste, c'est bon. Hyposulfate, tout ça.
Donc, vous avez pensé au H d'hyposulfate.
Oui, oui, oui. Mais c'est mon côté hypocaïne, vous voyez.
Oui, mais vous disiez que vous aviez banni les haches de cette dictée.
Oui, oui, attends, c'est vrai. J'ai mis des petits coups de hache par-ci par-là, en bon serial killer.
Chlorure d'ammonium, avec deux M à ammonium, vous y avez
deux
pensé.
Deux M, ouais. Voilà.
Et pourquoi vous avez mis deux M à ammonium?
Ben, c'est juste. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de mots ammon où il y a un seul M, à part le dieu égyptien.
Pour baigner le papier destiné à donner, donner, là, on est avec le verbe transitif ER à la fin, l'épreuve positive, acétate, A-C-E-T-A-T-E, Jules, ça vous convient?
Ah oui, là, il n'y a pas de H hein, quand même.
Non.
Ça va, ouais, ouais, c'est bon.
Et c'est un C, pas des S, doublé, vous l'avez écrit comme ça?
Ouais, ouais, ouais.
Très bien. Vous trichez pas, hein. Si jamais il y a une faute, vous annotez.
Ah, bah,
sur
je
le
vous
côté.
Ai dit déjà, j'ai confessé mon collodion, là.
Très bien. Acétate de soude et chlorure d'or. Chlorure. Allez-y, Jules.
Ouais, chlorure, quoi, quand même. C-H-L-O-R-U-R-E.
Très bien.
Voilà.
Pour imprégner cette dernière, rien ne manquait. Est-ce qu'il y a des questions dans cette phrase que vous posez qu'on n'aurait pas précisé, indiqué, Jules? Imprégner, I-M-P-R. Et G-N-E-R, hein, cette dernière, virgule, rien ne manquait, A-I-T, à la fin de manquait. Voilà. Des zones d'ombre pour vous, Jules?
Ça va pour l'instant.
Alors on continue, les papiers au pluriel, même, sans trait d'union, entre les papiers même, étaient là. Vous avez créé qu'un trait d'union?
Ah, bien sûr.
Bon, là vous l'enlevez, vous mettez une faute.
Mon côté union, là.
Les papiers même étaient là, étaient, A-I-E-N-T, là. Donc, pour indiquer le lieu, tout chloruré, C-H-L-O-R-U-R-E, accent aigu S. Et avant de les poser, E-R, dans le châssis, comment vous écrivez le châssis?
Alors, moi, j'ai mis un accent circonflexe et deux S-I-S.
C'est exactement ça. Deux S-I-S pour ce nom masculin. Le châssis, sur les épreuves négatives ES, il suffisait de les tremper, T-R-E-M-P-E-R, pendant quelques minutes, avec un S à minute et à quelques, dans le nitrate d'argent étendu d'eau, c'est le nitrate, donc étendu ne s'accorde pas, c'est U à la fin, pas de E, pas de S, tout va bien. Le reporter et son aide devinrent, vous l'écrivez?
E-N-T.
Très bien, donc, en peu de temps, d'habiles opérateurs. Bon, là, on a fait la liaison, donc ça vous guide. Habile, H-A-B-I-L-E-S, plus loin, opérateur. Et ils obtinrent, on a un nouveau passé simple, O-B-T-I-N-R-E-N-T, d'assez belles épreuves de paysage. Alors, est-ce que vous mettez des S à belles épreuves et paysages?
Bah, oh, les épreuves, j'ai mis des S partout.
Et paysages?
Aussi.
Pourquoi?
Oui, pourquoi? C'est l'intuition, c'est mon goût de la nature, c'est mon côté enfant sauvage.
Eh bien c'était juste, en tout cas dans la manière dont Jules Verne a choisi de l'écrire. Jules, difficile?
Voilà, mais j'ai appris des trucs, c'est l'histoire du collodion de zèle là.
De faute?
Alors, est-ce qu'on compte le tiré comme une faute?
Bien sûr.
Ou une demi-faute?
Non, non, une faute. Faute pleine.
Oh non, mais alors là c'est vachard. Hein.
Si, si. Une et demie en plus c'est un peu entre deux, on va y aller carrément, non? Est-ce que vous en voyez d'autres?
Normalement, je suis bon. Hein.
Ok, alors parfait. C'est une affaire réglée, cher Jules, de faute. Et je rappelle aux auditeurs de France Culture, à ceux qui nous écoutent et qui suivent En français dans le texte aujourd'hui, que l'ensemble de la correction sera, elle aussi, en ligne, à retrouver sur notre site. Si certains points vous ont posé questions ou difficultés, vous pouvez, n'hésitez pas, à les vérifier. Rachid Santaki a mis tout pour vous, avec l'aide de Catherine Donnet et de Sandrine Chaperon, sur la page du site. Cher Jules, 2 ans après, L'homme de Cro-Macron paraît donc le 9e tome de votre série Silex and the City, intitulé La dérive des confinements, où on retrouve cette famille dot-com en prise avec une terrible crise sanitaire. On est en 400 000 avant Jésus-Christ, c'est loin, et en ce temps-là déjà, aucun ado n'avait envie de se retrouver reclus avec ses vieux. Confiné dans une grotte avec mon frère et mes parents, je préfère me jeter direct sous une météorite. De votre côté, vous avez été confiné aussi, c'est une bande dessinée qui est née de ce confinement?
Oui, c'est très autobiographique. Comme Silex and the City en général, moi, vous le disiez, je suis fils de prof. Et donc, ces deux profs, elle qui est prof de préhistoire géo, lui qui est prof de chasse, ils se retrouvent à devoir enseigner la sélection naturelle en distanciel. Et déjà, en 40 000 avant Jésus-Christ, c'était pas commode. Et moi, j'ai été enfermé avec mes enfants aussi, qui n'en pouvaient plus. Ils étaient prêts à se jeter sous une météorite à force de voir ma tête tous les matins. Et comme un petit peu ces personnages préhistoriques, on a appliqué les gestes barrières, on a bien tout écouté, on a déplacé les stalactites de la grotte à 1,50 m les uns des autres, quitte à nager dans l'absurde comme on le fait encore parfois un petit peu aujourd'hui.
Alors la pandémie a vu fleurir tout un vocabulaire inusité, vous avez déjà évoqué présentiel jusqu'ici, parce que ces mots n'avaient pas lieu d'être, hein, comme confinement ou distanciation sociale. Et puis pas mal d'anglicismes aussi, on pense tout de suite à cluster, l'un des premiers qui est intervenu dans notre quotidien et dans notre langue courante. Vous trouvez ça assez fascinant, comment des périodes aussi compliquées, difficiles, sombres soient-elles, puissent faire émerger tout un répertoire? Est-ce que c'est fascinant pour l'auteur que vous êtes?
Je ne sais pas si c'est fascinant ou si c'est effrayant, parce que en même temps, on se rend compte que la plupart de ces nouveaux mots que moi j'utilise, parce que mon travail, il est un peu comme ceux des psys, ou c'est-à-dire d'aller chercher un peu sous les lapsus, sous les slogans, sous les choses toutes faites qu'on répète un petit peu comme des idiots, la réalité des choses. Et on se rend compte qu'effectivement, tous ces nouveaux mots qui nous ont environnés et que moi j'aime bien dans Silex and the City tourner en dérision, très souvent, c'est un peu des mots pour nous contraindre. Donc, et l'idée, c'est de retrouver un petit peu de liberté par rapport à tout ça. Et notamment, tout ce vocabulaire administratif qui était quasiment un truc soviétique, un peu oublié, mais les attestations de déplacement dérogatoire. Du coup, ça se transforme en attestation d'évolution dérogatoire. Alors, c'est évolution à moins de 20 km de son domicile, évolution pour raison impérative. Et donc, toutes ces espèces de petits trucs, même avant l'invention de l'écriture, en 40 000, on a une passion de la paperasse.
Mmh. Le mot que vous aimez le plus, quand même, dans ceux que vous avez entendu apparaître, ou celui qui vous pique le plus les tympans?
À vrai dire, il y en a trop, c'est une boîte Quality Street, vous voyez, avec des bonbons qui sont plus clinquants les uns que les autres et plus dégueulasses une fois qu'on les a mangés. Donc, c'est difficile d'en choisir un.
Bon, on vous offrira pas une boîte de mots pour Noël, alors, sous le sapin?
Ou alors des bons vieux mots, comme ça, un peu vintage, qu'on aime.
Que vous aimez bien aussi manier. Ce plaisir d'auteur, celui de jouer avec les mots, parce que ça, c'est présent dans toutes vos bandes dessinées, dans tous vos albums, Jules. Est-ce qu'il est d'abord aussi un plaisir de lecteur? C'est ce que vous alliez chercher chez les auteurs que vous aimiez? On parlait de Jules Verne tout à l'heure, qui a son propre langage, d'ailleurs, hein, une langue aussi très stylisée et très marquée. Ça, c'est un plaisir de lecteur, en tout cas, le plaisir d'auteur est né de ce plaisir de lecteur?
Oui, en fait, je fais pas partie des gens qui sont d'abord fascinés par la narration, en fait, et l'action. Contrairement à mes enfants, peut-être, qui sont juste des passionnés de fantasy, de choses comme ça, j'ai toujours été vachement sensible à la poésie, en fait, d'une langue. Et en fin de compte, aujourd'hui, je me rends compte que ce que je lis quasiment le plus, c'est de la poésie. J'apprends un nouveau poème chaque semaine. À la fois, c'est une espèce de lutte contre Alzheimer, l'érosion générale, et puis l'esprit funeste des temps. Donc probablement, oui, ce sens des mots comme ça et de la scansion, ça reste quelque chose de super important.
Là, vous tendez quand même un peu la perche. Vous savez qu'en français, dans le texte, on adore les classiques, on adore les mots. Alors, quel est le dernier poème que vous ayez appris par cœur?
Alors, il y en a un que je suis en train d'apprendre de Max Jacob, avec ce vers extraordinaire qui est « Qui m'a pris mon Dieu dans la plaine ?» Le vent, le vent, le vent, le vent. C'est dingue, non ?
Est-ce que le dictionnaire est une pièce maîtresse de votre bureau, de votre chambre de travail?
J'ai un peu perdu le fil du dictionnaire à cause des outils numériques, parce qu'il y a toujours ces propositions de mots qui surgissent sur les écrans d'ordi. Mais je suis quand même pas mal entouré de dictionnaires, et notamment de dictionnaires d'autres langues, parce que j'ai toujours bien aimé aussi apprendre d'autres langues, et je m'en sers encore pas mal, ça.
On imagine, à travers la lecture de vos BD et de vos albums, que vous puisez aussi beaucoup de votre langue d'auteur dans la rue, dans les cafés, dans les conversations que vous pouvez avoir. Et c'est le cas avec tout ce nouveau vocable qu'on trouve dans La dérive des confinements, hein, dans ce dernier tome de Silex and the City. Hein.
Oui, c'est ça. Et surtout, en fait, moi, je travaille jamais aussi bien que dans les cafés, dans le métro. Alors, les cafés, c'est un petit peu limité maintenant. Mais effectivement, j'entends la façon dont les gens parlent, les sociolectes, en fait, hein, comme diraient les anthropologues, selon les milieux, selon les âges. Et depuis qu'en fait, la série est transposée en dessin animé, c'est-à-dire depuis pas mal d'années maintenant sur Arte, j'ai en plus les voix des comédiens qui se superposent à mes personnages de dessin sur la page. Et donc, ils m'aident à les rendre encore plus vivant. Donc, dans La dérive des confinements, j'avais Noémie Delattre, j'avais Joséphine Demeaux qui me parlait à l'oreille et qui me chuchotait un peu la façon de raconter les choses.
Vous êtes encore confiné aujourd'hui chez vous, comme vous, Rachid Santaki, en Seine-Saint-Denis. On est séparés, pas ensemble, pour cette dictée du mois de décembre. Mais merci beaucoup à tous les deux de vous être prêtés au jeu, comme les auditeurs de France Culture, cher Jules, de cette dictée imaginée par Rachid Santaki et donc extraite de Jules Verne. Merci à tous les deux. Je rappelle le titre de ces deux bandes dessinées, le 9e tome de votre série Silex and the City chez Dargo, intitulé La dérive des confinement et apparu par ailleurs Les aventures de Lucky Luke d'après Maurice, volume 9, un cow-boy dans le coton. Merci beaucoup à tous les deux.